Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'Ancien Testament, parce que il y a ce parallélisme entre la vocation des prophètes, comme Amos, et la vocation des apôtres, bien évidemment, qui sont envoyés en mission par Jésus. C'est une période intéressante et surtout un homme intéressant, Amos. Il a vécu vers 750 avant notre ère, vous voyez, juste après la mort du prophète Élisée, tellement célèbre de son temps et au-delà de son temps, disciple d'Élie. Et Amos arrive juste après la prédication du prophète Osée. Voilà. Donc, on pense que Élisée a dû mourir vers 783. Bon, ça, c'est des dates. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Revenons à cette histoire antique de l'Ancienne Alliance. Vous aviez un seul royaume à l'époque de David, premier roi, enfin second roi après Saül, et puis son fils, évidemment, dont le nom m'échappe là, mais, Salomon, voilà Salomon bien sûr. Et à la mort de Salomon, eh bien le royaume, son fils, c'était Roboam, eh bien. Ne parvient pas à faire l'unité et son rival Jéroboam eh bien s'empare du royaume de Samarie, du royaume du Nord. Et il reste pour le royaume du Sud, ayant Jérusalem pour capitale, eh bien juste un petit royaume par rapport à l'autre. Et ça va durer comme ça pendant 2 siècles, jusqu'à la chute du royaume du Nord que prophétise le prophète Amos, justement. Et donc le prophète Amos met en garde les habitants d'Israël, on appelle Israël les habitants du royaume du Nord à cette époque, et les habitants de Juda, les habitants du royaume du Sud, vous voyez. Quand on dit Israël, on ne dit pas l'ensemble, donc, mais peu importe. Il avertit les habitants du royaume de Samarie, d'Israël, qu'ils doivent se convertir. Sa prédication, elle est très moderne, parce qu'elle est à la fois religieuse et elle est sociale, et elle est extrêmement acerbe. On le voit décortiquer les pratiques, en grande partie économiques, de son temps, le trucage des balances, le moment de comment est-ce que les riches s'approprient toutes les récoltes au moment où elles arrivent. Comment à faible prix, donc comment ils les revendent bien plus cher, comment ils exploitent tout, même l'écorce qui a servi et qu'on avait triée au départ, ils vendent tout et après avoir tout acheté pour rien, enfin, ils décortiquent tous ces mécanismes sociaux, ils décortiquent le mode de vie des riches de son temps, avec des images qui sont très fortes. Hein, les vaches de Bassan, pour parler des femmes riches, qui se trémoussent et qui se délassent sans cesse et qui invitent leur mari à faire de même et à abandonner la religion de Dieu. Et Amos met vraiment en relation la crise de la religion, donc dans le royaume du Nord, avec cette oppression sociale inimaginable. Et son analyse est vraiment très fine et très bonne, parce que réellement, l'abandon des commandements, eh bien, ne produit que cela, nous nous en apercevons dans notre monde moderne. L'abandon des commandements de Dieu, d'amour du prochain fondamentalement, eh bien, ça nous laisse en proie eh bien, à tous les appétits de ceux qui parviennent à les imposer aux autres, quoi. Et on voit un monde là, qui s'organise de plus en plus sur ce que Amos de son temps eh bien, récusait et dénonçait. Il est urgent pour nous chrétiens, c'est le sens de l'envoi des apôtres en mission, eh bien, de retémoigner aussi de cela, de savoir faire le lien entre, je dirais, le mal social et l'abandon des commandements. Et inviter les gens à réfléchir un peu de cette façon-là. Donc le livre du prophète Amos, il n'est pas très long à lire. Je vous invite donc à le relire, contrairement à d'autres prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, eux, c'est des gros blocs. Mais le prophète Amos, c'est un petit livre de 14 chapitres, à peu près, donc il est facile à lire. Il prophétise de son temps, donc sa prédication, on va dire, c'est vers 750. Eh bien, il prophétise pour 30 ans après. Il n'a pas donné de date, lui, mais c'est les dates qu'on a déduites à partir de l'Ancien Testament. Eh bien, la destruction, la chute de ce royaume et de son mode de vie, et c'est ce qui va arriver, parce qu'en 721, Samarie, donc c'est la capitale du royaume qui porte le même nom, c'est un peu motif à confusion, mais peu importe. Donc ça, la ville de Samarie tombe, c'est Sargon II, roi des Assyriens, qui s'en empare, et il va exiler toute la population. Et deux siècles plus tard, donc il ne restera plus pendant deux siècles que le royaume de Juda avec Jérusalem, mais deux siècles plus tard, cette fois-ci ce sera les Babyloniens qui viendront envahir ce qui reste de la Palestine. Et De Gaulle dirait la Palestine libre, et il s'empare de Jérusalem, il brûle le temple, détruit, et lui aussi exile toute la population. Donc, vous voyez, ce principe de l'exil, c'est un châtiment en réalité que Dieu impose à ceux qui sont revenus aux valeurs païennes. Vous êtes revenus aux valeurs païennes, disait Amos, eh bien, vous serez dispersés au milieu des païens et au milieu de leurs idoles, celles que vous vénérez aujourd'hui. Il y a manifestement vraiment une grande opportunité dans la prédication d'Amos et la façon dont il avertit ses contemporains. On ne peut pas vivre en ayant l'argent pour Dieu. Or nous avons un monde qui est organisé sur l'argent. Le libéralisme organise le monde, littéralement, même au niveau politique. Les politiciens ne sont plus que des ombres de ce que furent leurs prédécesseurs. Juste des hommes interchangeables, comme dans les groupes croque modernes. Peu importe leur étiquette, ce qui compte, c'est qu'ils soient au service ou des banques ou des grandes entreprises. Et là, on les élus. C'est ce monde-là, ce monde organisé par l'argent, ce monde qui n'a pas de valeur, ce monde qui rejette toute valeur fondamentale, celle de Dieu, qui permet de distinguer le bien et le mal. Eh bien, un tel monde ne peut pas tenir. C'est le grand message d'Amos pour Israël, mais il est valable, depuis que le Christ a rendu la religion chrétienne universelle, il est valable pour le monde entier désormais. À chaque fois qu'une nation chrétienne qui est parvenue à recevoir ce titre-là, dirais-je, parce qu'il y a suffisamment de chrétiens pour qu'on puisse parler de la sorte, eh bien, c'est adonné de nouveau aux valeurs païennes, eh bien, ces royaumes sont tombés. Le livre des rois, l'Ancien Testament, il y a ce livre des rois qui commande chaque règne pour les deux royaumes. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu beaucoup de rois fidèles, ni dans un royaume, ni dans l'autre. Un peu plus au royaume du Sud. C'est ce que dit d'ailleurs le prêtre, le prophète, vendu au roi d'ailleurs, Ananias, à Amos. Écoute, si tu veux prêcher la parole de Dieu, va donc en Juda. Là, on l'écoute encore aujourd'hui. Mais pas chez nous. Chez nous, c'est le roi, il nous dicte ce qu'on doit dire. Il y a un langage officiel à respecter, il y a des choses qu'il faut taire. Donc si tu veux parler librement, ouvertement et critiquer le roi et sa politique, eh bien va ailleurs, va au royaume du Sud. Donc ce royaume du Sud a duré un peu plus longtemps, mais malgré tout, les rois qui se sont succédés, il y en a eu de bons, de très bons même, mais il y a eu beaucoup de très mauvais. Et ils sont tombés eux aussi. Rien ne peut tenir sans Dieu, c'est la grande leçon. Et quand on ne tient pas en Dieu, eh bien c'est l'exil, le châtiment d'exil, vous voyez. On est une dissolution. C'est comme un dissolvant, l'exil. Toute la population croyante est envoyée disséminée dans l'immense empire assyrien d'abord, babylonien ensuite, où ils sont mélangés et puis ils se perdent. En tout cas pour Israël, tous ceux qui ont été déportés n'ont jamais laissé de traces derrière eux. Plus tard, certains ont prétendu remonter jusque-là, mais c'est vraiment une relecture de l'histoire. Tous ont disparu, eux et leur foi. Pas leur génération, et ils ont continué à se reproduire, mais ils ont vécu comme les païens, au milieu des païens. Il n'est plus rien resté de ce royaume du Nord, à part quelques individus, bien sûr, et qui ont gardé la foi, c'est le cas d'Amos. Le royaume du Sud, lui, a procédé autrement face au même châtiment. Il y a eu un petit reste. Amos prêche le petit reste, mais le petit reste, il a dû gagner le royaume du Sud, pense-t-on. Et c'est là que, parce qu'on écoutait encore la parole de Dieu, qu'ils ont été accueillis, qu'ils ont pu survivre en tant que nation sainte. Les autres, donc, deux siècles après, la chute de Samarie, vient la chute de Jérusalem. Ils sont éparpillés à leur tour dans l'immense empire babylonien. Et là, il y a un petit reste, là ils résistent, ils s'organisent. C'est le début de ce qu'on appellera la diaspora. Et parce que ils acceptent humblement le châtiment, ce petit reste va redonner naissance à une nation. Et ce sera le retour d'exil qui a été prévu par le prophète Daniel au bout de 70 ans. Voilà un peu l'histoire. Et c'est dans cette histoire-là qu'Amos intervient. Et on se rend compte que les prophètes sont des gens qui ont une grande importance. Qu'est-ce qui fait que Amos nous décrit ce qu'il est, sa vocation? Je suis un paysan. C'est un paysan, il n'a pas été élevé dans les palais, il ne connaît pas la géopolitique de son temps particulièrement, ni les lois sociales. Et pourtant, la foi communique à cet homme un bon sens qui lui permet d'avoir les yeux ouverts et de voir ce qui se passe. Et ça suffit à Dieu. À partir de ce moment-là, le prophète, lui, ce qu'il doit faire, c'est résister aux pressions, et parce qu'il sait que la parole de Dieu infailliblement se réalisera. Donc il était derrière le troupeau, il a accepté de suivre le Seigneur, et à partir de ce moment-là, il dit ce que ses yeux voient et ce que son cœur entend en haut, venant d'en haut, la parole de Dieu. Dieu lui explique ce qu'il voit en même temps. C'est ça qui est très beau dans la foi. La foi vraiment nous fait tenir debout, elle nous permet de voir le réel tel qu'il est. Il y a toute une éducation de l'Esprit Saint qui est tout à fait réelle. On voit en revanche le temple, donc l'institution dédiée normalement à la religion et à l'écoute de la parole de Dieu et à sa diffusion, on voit au contraire que le temple est devenu une institution opaque qui fait taire un lieu sans droit, sans liberté de parole pour les prophètes, pour les hommes de Dieu en général. Là encore, c'est pas seulement un phénomène antique, c'est le roi qui tenait les prophètes, il les payait, donc les prophètes disaient ce que le roi voulait entendre, ce n'était pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, c'est le langage du paiement, le langage financier qu'utilise Amanias pour parler, pour chasser Amos. Il lui dit, écoute, si tu veux gagner ta vie, si tu veux être payé, puisque tu ne veux pas tenir un autre discours, il faut que tu ailles au sud. Parce que ici, dans le nord, on ne paye pas les gens comme toi. Donc, on a eu aussi ce genre d'institution devenue opaque dans notre propre Église à diverses époques, et pas très éloignée de nous, si vous vous souvenez bien, dans les années 60-70, je dirais. Écoutez, le clergé vivait bâillonné, incapable de dire autre chose que ce qu'on entendait partout, un langage marxisant sur l'Église, et au nom, évidemment, au nom de Dieu et du Concile Vatican II, mais c'était une église bâillonnée. Tous les prêtres qui avaient une autre sensibilité, qui avaient, comme Amos, des yeux pour voir les dangers du marxisme, par exemple, eh bien, n'avaient pas de lieu où prêcher. Exactement comme à l'époque d'Amos. Il est au temple de Bethel. Le temple de Bethel, donc à l'époque de la scission, Jéroboam, parce que le pouvoir religieux était important, évidemment, pour éviter que tous ses fidèles n'aillent à Jérusalem en pèlerinage, tous les membres de son peuple, eh bien il avait institué au nord et au sud, donc aux deux extrémités du royaume, un grand temple. Dan, au nord, Bethel, au sud. Maison de Dieu, c'est là que Jacob a eu sa vision de l'échelle où montaient et descendaient les anges et que Jésus reprend, c'est la porte du ciel, la maison de Dieu, Bethel. Et la Bethel, cette maison de Dieu, était devenue, comme à l'époque du Christ, une caverne de brigands, c'est ce que Jésus dit du temple de Jérusalem. Et encore une fois, gaspillée, gâchée par l'argent, les grands prêtres qui faisaient un trafic sur les sacrifices pour gagner de l'argent, ils avaient leurs banques, etc. Alors voilà tout ce monde de corruption, ce monde qui tombe religieusement parce qu'il est attiré par les appétits terrestres au lieu d'être dans l'adoration, d'être dans l'admiration de Dieu. Et voyez comment Dieu, certes, prend son temps. Il a fallu 30 ans entre la prédication d'Amos et la réalisation effective de ses menaces. Mais au bout de 30 ans, elles sont arrivées. Et pour de bon. Et définitivement pour le royaume du Nord, comme je vous l'ai dit. Ça, ils n'ont pas laissé de traces, ce peuple-là. Et c'est vraiment un fléau au sens le plus fort du terme, puisque c'est religieusement qu'on l'envisage. Dans le passage de l'Évangile, l'envoi des 12 en mission, eh bien, on voit bien le parallélisme avec la vocation prophétique d'Amos et de tous ses confrères de l'Ancien Testament. Il y a cette insistance, vous voyez, ça commence par la mention de l'exorcisme, il leur donnait pouvoir de chasser les démons. Et la conclusion reprend ça en ajoutant la guérison des malades. Donc vraiment, prêcher, ça veut dire toujours combattre des démons, ces démons qui inspirent les hommes pour les détourner de Dieu. Et Jésus insiste sur un autre élément, il faut être libre matériellement pour pouvoir parler. Si vous avez besoin d'un salaire pour occuper une fonction, et longtemps, on a eu un clergé qui était comme ça, sous l'Ancien Régime, eh bien, vous n'êtes pas libre de parler, parce que celui qui vous paye peut intervenir, tandis que lorsque vous n'avez pas de salaire, eh bien, vous êtes libre comme l'air. Donc, soyons libres. En tout cas, je ne vous dis pas de ne pas avoir de salaire, bien évidemment, je vous dis soyez libres. Et pour être libre, il faut vraiment avoir confiance en la parole de Dieu.